statue grecque ou la statue romaine nous le rappelle. Le corps est beau. La nudité n'est pas scandaleuse. Et le christianisme va aller dans ce sens-là. Alors, il va pas mettre des statues dénudées dans ses églises, mais il va dire que le corps, c'est le temple de la présence de Dieu, que Dieu est venu habiter le corps de l'homme, et que depuis ce temps-là, eh bien, on peut considérer que le corps de l'homme est la demeure de Dieu. Et donc, nous sommes dans des sociétés où le corps n'est pas scandaleux, même s'il y a eu des périodes où on se couvrait plus que d'autres, hein, mais le corps ne doit pas être caché. Le visage ne doit pas être caché. Et le christianisme a beaucoup influencé là-dessus aussi, c'est que dans chaque être humain, eh bien, il y a le visage de Dieu qui se reflète. Donc on ne va pas cacher le visage qui reflète l'image de Dieu. Les sociétés musulmanes, alors elles ne sont pas les seules, en Inde c'est pareil, c'est pas l'islam, pour la majorité des hindous, des indiens et des hindous, dans le monde musulman, mais c'est l'inverse. Le corps doit être caché. Il y a un sens de la pudeur qui fait que le corps ne doit être montré que dans l'espace privé, mais dans l'espace public, les corps doivent se cacher, se voiler. C'est vrai du corps de la femme, mais c'est vrai du corps de l'homme. Alors, tout bouge, hein, mais quand vous pensez aux sociétés traditionnelles du monde musulman, les hommes portent des vêtements amples, comme les femmes. On ne montre pas ses formes. Et on s'est vraiment trompé quand on a abordé cette question du voile islamique en France, parce que tout de suite, il y a eu des crispations liées à la laïcité, en disant, voilà, c'est pas tolérable que les filles se voilent à l'école, on a réglé ça par une loi, mais que des femmes se voilent, c'est pas tolérable, parce que ça va contre la laïcité de nos pays. C'est une espèce d'affirmation religieuse qui vient déstabiliser la société. Alors c'était beaucoup plus profond que ça. Je crois que si on avait travaillé sur la question de la pudeur, ça aurait été beaucoup plus fécond. Et peut-être qu'on aurait décrispé les choses de part et d'autre. Ces jours-ci, je voyais qu'il y avait des polémiques qui commençaient à enfler, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, sur les questions liées à l'hygiène individuelle, avec la question des toilettes, papier ou bouteilles d'eau. Il y a des entreprises qui se mettent maintenant à mettre des panneaux. Toute personne qui sera surprise avec une bouteille d'eau sortant des toilettes sera sanctionnée. Et donc là aussi, on voit qu'on est devant quelque chose qui n'est pas de l'ordre du religieux, qui est de l'ordre de tradition, d'hygiène, et c'est sous cet angle-là qu'il faut les traiter. Mais pour dire qu'on a besoin de médiateurs, on a besoin de faire ce travail sur les différences culturelles, sans porter de jugement, mais essayer de comprendre pourquoi les uns fonctionnent ainsi, les autres fonctionnent autrement, et comment est-ce qu'on peut vivre ensemble avec ces approches différentes, sans que l'autre se sente agressé ou en péril. Alors maintenant, je vais essayer de voir avec vous un petit peu les enjeux plus évangéliques. Et je partirai d'abord du témoignage du pape François. Sans doute que plus tard, on verra beaucoup de choses sur le pape François, mais il est une chose certainement qui sera mise en avant, c'est que ce pape est le pape des migrants. Aucun pape avant lui ne s'est autant impliqué sur la question migratoire et n'a autant affirmé que cette question migratoire était centrale. Bon, c'est son histoire d'abord. Puisqu'il est, il est fils d'immigrés italiens. Il est né à Buenos Aires en 1936, si je ne me trompe pas, de parents qui avaient quitté le Piémont parce qu'ils étaient trop pauvres et qui sont partis tenter leur chance de l'autre côté de l'Atlantique. Donc déjà ça, évidemment, ça joue dans sa sensibilité. Mais chez lui, il y a une conscience vive de ce qu'est, on pourrait dire, le drame migratoire pour les gens qui le vivent, et une conscience vive que les migrations, sont ici, mais elles sont encore plus devant nous. Que le monde dans lequel on est, est un monde, pour les raisons que j'ai déjà rappelées, eh bien, est un monde où il y aura de plus en plus de migrations. Et qu'il n'est pas pensable que, en face de ces flux migratoires, de ces démarches migratoires, il n'est pas pensable que les pays les plus riches, eh bien, érigent des murs, mettent des frontières, fassent la chasse aux migrants, parce qu'on est aujourd'hui dans cette configuration-là. Quand je dis la chasse aux migrants, ça pourrait paraître excessif, comme ça, de le dire, mais quand on regarde de près comment fonctionne aujourd'hui la communauté européenne, l'Union européenne, sous-traite avec la Turquie, avec le Maroc, avec la Libye, sous-traite avec la Grèce, sous-traite la gestion migratoire, puisque l'Union européenne verse toujours plus d'argent à ces pays-là pour qu'ils gardent les migrants sur leur territoire ou qu'ils les rejettent plus loin, hein, mais en tout cas pour qu'ils empêchent que les migrants viennent chez nous. Et tout cela au mépris des droits de l'homme. Tout à l'heure, j'ai évoqué la Libye, par laquelle passent la plupart des Africains, hein, qui ne peuvent pas passer par le Maroc. Mais tous ceux qui passent par la Libye sont pratiquement tous mis en esclavage à un moment ou à un autre. Beaucoup sont persécutés et tués en Libye, on ne sait pas le nombre. Hein. Ils sont souvent regroupés dans des camps qui peuvent être des prisons officielles, d'où on les loue ou on les vend. Or, l'Union européenne paye la Libye, hein, depuis 2017, je crois. C'est l'Italie qui a commencé à signer des accords avec la Libye, avec les autorités libyennes officielles, pour que l'on garde les migrants. C'est-à-dire qu'on paye pour que des centres de détention soient construits, on paye pour que les frégates libyennes interceptent les embarcations de migrants, on paye pour que la Libye renvoie, mais comment? On ne se pose pas trop la question, les migrants africains qui sont chez elles dans leur pays d'origine, mais en ne le faisant pas de manière très démocratique et très respectueuse des personnes. Hein. On sous-traite avec la Turquie. Alors ça, c'était surtout après l'arrivée massive des Syriens et des Irakiens, surtout des Syriens. À un moment donné, l'Europe occidentale a dit on ne peut plus. Et depuis, on paye la Turquie. Et on sait que ce n'est pas un régime très, très démocratique, c'est moins qu'on puisse dire, pour qu'ils retiennent les migrants. Voilà, donc on est vraiment dans une attitude de déni de la dignité humaine des migrants. Si on les considérait vraiment comme des hommes et des femmes comme nous, eh bien, on ne pourrait pas avoir ces politiques-là. Et vraiment, le pape François, c'est la seule autorité au monde qui crie très fort pour dénoncer ce déni d'humanité à l'égard des migrants. Et c'est tellement fort, on peut dire que ça fait partie de sa vocation de pape, parce que quand il était archevêque de Buenos Aires, il était connu pour avoir le souci des pauvres, pour aller régulièrement dans les bidonvilles. Hein, c'est pas au moment où il est devenu pape qu'il est devenu un défenseur des pauvres. Il a toujours été dans sa vie de jésuite, dans sa vie d'évêque, d'archevêque. Mais ce qui est nouveau et pour moi relève de la grâce d'État, c'est que dès le début de son pontificat, eh bien, il dénonce la maltraitance des migrants. Hein. Dès avril 2013, hein, il se rend dans l'île italienne de Lampedusa, hein, dans cette île où ne cessent d'arriver des migrants africains, soit par leurs propres embarcations, soit parce qu'ils ont été récupérés par des bateaux. 3 ans après, il ira dans l'île de Lesbos, l'île grecque de Lesbos, qui est aussi, hein, à ce moment-là, qui sera. En 2016, c'est le moment où il y a les arrivées de Syriens, d'Irakiens, etc. Et il va revenir avec, vous vous souvenez peut-être de ça, il revient avec, dans son avion personnel, 3 familles de Syriennes, qui se trouvent être, je crois, toutes les 3 musulmanes, et qu'il va loger à la maison Sainte-Marthe au Vatican. Quand il ira en voyage dans des pays concernés directement par l'immigration, par exemple au Maroc en 2019, il va avoir des propos, je vous en lirai quelques-uns très forts. Ceux qui sont allés à Rome récemment ont peut-être vu, enfin ont vu, parce que si vous êtes allé à Rome, on n'a pas pu ne pas la voir, hein, depuis septembre 2019, donc ça fait 3 ans maintenant. Cette immense statue représentant des migrants du monde entier et de tous les siècles. Je ne sais pas si vous avez... Il y en a qui ont eu l'occasion de voir ça. C'est incroyable. Sur la place Saint-Pierre, il a fait faire une sculpture monumentale de migrants de tous les temps. Il y a 140 migrants qui sont représentés dans cette statue, sur la place Saint-Pierre. Il a inauguré aussi la même année. Dans les couloirs du palais apostolique, il a inauguré une espèce de, enfin, je dis une espèce de sculpture, je ne sais pas comment le dire, c'est un crucifix de résine qui est habillé d'un gilet de sauvetage ayant appartenu à un migrant qui est mort en Méditerranée, puisqu'on a retrouvé le gilet, mais on n'a pas retrouvé le corps qui était dedans. Hein. Et puis bon, voilà, depuis presque 10 ans maintenant, on ne compte plus les interventions où on parle des migrants, hein, affirmant que les migrants sont d'abord des personnes humaines. Avant d'être des migrants, c'est-à-dire des gens qui pourraient nous déranger par leur déplacement, mais ce sont des personnes humaines. Et vous savez que dans son encyclique Fratelli Tutti, il y a un chapitre entier, le chapitre 4, qui est consacré aux migrants. Chapitre qui est intitulé Un cœur ouvert au monde ou sur le monde. Chez lui, il y a quelques idées forces qui reviennent en permanence. Sans doute que sa pensée est éclairée par au moins 2 textes évangéliques. Bon, ça ne vous étonnera pas. Hein. D'une part, les béatitudes, heureux les assoiffés, les affamés et les assoiffés de justice. Et puis, évidemment, le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, pour ne citer que ce passage. Sans doute que là, pour lui, l'enracinement dans la solidarité avec les migrants, elle est éclairée en grande partie par ces textes. Mais dans Fratelli Tutti, vous savez aussi qu'il fait, dans son chapitre 2, tout un développement sur la parabole du bon samaritain. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir la manière de penser de ce pape. Il part toujours de la réalité humaine pour ensuite s'élever jusqu'à la réalité divine. Alors qu'on peut avoir souvent dans l'Église la tentation inverse. C'est-à-dire qu'on part d'une réflexion sur Dieu et puis on va chercher des applications dans la vie réelle. Lui, il part toujours, 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 toujours du bas. Il est de manière surprenante parce que quand vous prenez aussi bien Laudato Si que Fratelli Tutti, qui sont donc ces 2 grandes encycliques complémentaires, Ben, il y a très peu de citations bibliques, si vous comparez à d'autres encycliques. Très très peu, si vous les cherchez. Et dans Fratelli Tutti, sa méditation, son commentaire de la parabole du bon samaritain, on peut presque dire que c'est un commentaire non religieux. C'est-à-dire qu'il prend cette parabole comme une parabole dont pourrait s'emparer n'importe quel homme ou femme de ce monde, et notamment n'importe quel responsable politique. Parce qu'il ne réduit pas la parabole du bon samaritain au comportement individuel de chacun, mais pour lui, c'est une parabole de ce qui se passe dans le monde. Et ce qu'il appelle à devenir de bons samaritains, ce sont les États. Il applique cette parabole à la situation du monde. Et vraiment, voilà, il part de ce que vivent les hommes. Et dans ce que vivent les hommes, eh bien, il va essayer de montrer en quoi le souci des hommes, eh bien, rejoint le cœur de la révélation chrétienne. Alors, il a un certain nombre de grands thèmes. Il y a quatre verbes qui reviennent toujours. Bon, il y a le verbe accueillir. Accueillir. Il y a un devoir, un devoir d'accueillir d'autres frères humains. Et accueillir, ça veut dire. Donc c'est le contraire de mettre des murs et des frontières, etc. C'est quand les gens arrivent, eh bien les accueillir en respectant toute leur dignité humaine et les accueillir comme des frères. Et donc ça veut dire leur assurer le minimum vital quand ils sont là, mais c'est aussi déjà en amont favoriser, les aider à arriver. Il a plaidé plein de fois pour qu'il y ait des couloirs humanitaires pour laisser passer les migrants là où il y a des situations de guerre. Il en appelle aux solidarités des pays riches pour aller sauver les migrants en mer. Il a cette phrase très, très forte. Hein, la Mare Nostrum est en train de devenir la Mare Mortum. Donc l'exigence de l'accueil. Son deuxième verbe, c'est protéger. Et là aussi, on est dans une attitude inverse. Des grandes politiques qui sont menées aujourd'hui, en particulier par l'Europe, il est très dur à l'égard de l'Europe. Sans doute parce qu'il est en Europe maintenant, parce qu'il est aussi d'ascendance européenne. Il tient plus de propos durs à l'égard de l'Europe qu'à l'égard des États-Unis, qui font pas mieux avec leurs frontières mexicaines. Mais il est très dur à l'égard de l'Europe sur le fait que on cherche à se protéger au lieu de protéger. Les gens qui arrivent. Et plusieurs fois, il a protesté, notamment quand il est allé au Maroc. C'était courageux de sa part, parce qu'il était dans un pays qui n'est pas toujours, même si ce n'est pas le pire, très accueillant à l'égard des migrants subsahariens, où il a rappelé avec force qu'on ne pouvait pas reconduire comme ça au désert, sans ménagement les gens. Alors que ces routes sont très violentes. Troisième axe de réflexion, ou troisième verbe, c'est promouvoir. Là aussi, dans les mots très forts qu'il utilise, qu'on retrouve dans plusieurs de ses interventions, et encore dans Fratelli Tutti, c'est que personne n'est un déchet humain. et que il faut accueillir et promouvoir la dignité des uns et des autres, et que si on le fait, eh bien on y gagnera tous en humanité, mais aussi parce que on s'enrichira de la culture des autres. Et puis enfin, le dernier verbe qu'il utilise beaucoup, c'est intégrer. Il plaide pour une société interculturelle qui soit ouverte, avec des villes qui soient accueillantes. Voilà. Et pour ça, il parle de tout d'une culture du dialogue justement pour que les valeurs des uns et des autres finissent par se rencontrer réellement et que le vivre ensemble devienne possible. Quand il est revenu de son voyage au Maroc, il a notamment dit aux journalistes, ceux qui construisent les murs finiront prisonniers des murs qu'ils construisent. J'ai pleuré en voyant des barbelés avec des lames qui sont utilisées pour les murs. J'ai pleuré parce que tant de cruauté ne rentre pas dans ma tête et dans mon cœur, et encore moins de voir des gens se noyer dans la Méditerranée. C'est vraiment, on voit bien, c'est une réalité qu'il a à cœur. Et il ne se résout pas au malheur des migrants, quoi. Il ne se résout pas à ces gens qui meurent en mer, etc. Et c'est une voix singulière parce que vous n'entendez plus beaucoup d'autres voix comme cela. Vous pouvez les chercher, hein. D'autres voix qui tiennent ce discours, qui voudraient secouer un peu l'humanité, et à commencer par secouer l'Église. Et force est de constater aujourd'hui que ce témoignage du pape, parce que c'est pas qu'un discours, hein, ce témoignage du pape, eh bien, il a du mal à entraîner les chrétiens. Alors, il y a plein de chrétiens qui font des choses, plein de chrétiens qui accueillent. Mais si on regarde la majorité des chrétiens, on n'est pas dans ce cas-là. Puis je rappelais tout à l'heure les votes, y compris chrétiens, pour des partis populistes et d'extrême droite aujourd'hui, quoi, qui sont dans le refus, le rejet des migrants. Moi j'ai entendu, et je ne vous dirai pas son nom, un responsable politique français, catholique, allant à la messe tous les dimanches. Disant, ce pape est en train de détruire l'Église. Et donc là, il a vraiment fait un choix d'être. Enfin, il a fait un choix. Pour lui, c'est une exigence absolue, une exigence évangélique absolue. Voilà. Mais c'est pas. Il se fait pas que des amis, hein, et dans l'Église et dans le monde. C'était l'année dernière pour la journée internationale des migrants qui a lieu chaque année. Là, c'était la 100e journée, 107e journée des migrants. Il avait publié une lettre où il redisait beaucoup de choses qu'il dit de ci, de là sur les migrants. Et notamment, le titre, c'était Vers un nous toujours plus grand. Et ça, c'est sans doute aussi une clé de sa pensée. C'est-à-dire que là, il part d'une réflexion sur la création, l'apparition de l'homme, hein, en disant que Dieu nous a créés hommes et femmes, des êtres différents et complémentaires pour former un nous destiné à devenir toujours plus grand avec la multiplication des générations. Le projet de Dieu, c'est que chaque être humain se sente participant d'une grande famille humaine, quoi. C'est sans doute aussi là une des clés de sa pensée, de sa réflexion. Un nous toujours plus grand. Il affirme aussi avec force que l'Église doit, ça paraît naturel, mais c'est pas si évident que ça, que l'Église doit être toujours plus catholique. En ce sens que la catholicité, c'est l'universel. C'est pas d'abord une certaine doctrine ou une certaine organisation de l'Église. Non. La catholicité de l'Église, c'est d'être universel et d'aller, c'est évidemment évangélique, et d'aller ce qu'il appelle aux périphéries existentielles. Là où les hommes sont oubliés, aller les rejoindre parce que le Christ et Dieu lui-même veut rassembler toute la famille humaine. Et il va parler aussi d'un monde qui doit devenir toujours plus inclusif, hein, toujours ce refus de l'exclusion. J'appelle, disait-il, à tous les hommes et toutes les femmes du monde à marcher ensemble vers un nous toujours plus grand, à recomposer la famille humaine pour construire ensemble notre avenir de justice et de paix, en veillant à ce que personne ne reste exclu. Et puis il y a un autre concept qu'on trouve chez lui, c'est celui, enfin, c'est pas unique, hein, mais il développe ça aussi beaucoup, l'idée de la maison commune. C'est déjà très très développé dans Laudato Si. Mais la maison commune, c'est pas seulement sauvegarder la création, c'est sauvegarder enfin, l'homme qui fait partie de la création aussi. Et en particulier, c'est sauvegarder ceux et celles qui sont jetés sur les routes du monde. Il va dire une expression qui pourrait faire sourire, nous sommes tous dans le même bateau. Donc voilà, je crois que le témoignage du pape, c'est pour nous une bonne façon de nous rappeler, de sentir avec de la chair quelles sont les exigences évangéliques. Je rappelais tout à l'heure le passage de Matthieu 25, hein, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Le Christ, par certains aspects, a été perçu comme un étranger, et en tout cas, il s'est identifié lui-même à l'étranger, sinon il n'aurait pas dit cette parole-là. Identifié, on pourrait dire, à tous les maudits de la terre. Et ses disciples sont appelés, comme lui, à accorder une place à tous ceux qui sont exclus, persécutés, et accorder une place aux étrangers, autrement dit, aujourd'hui, aux migrants. De la même manière, l'Évangile nous appelle à reconnaître chez tout autre un frère, à aller à la rencontre de l'autre, à casser les distances qui séparent les hommes entre eux, ou à sauter les frontières, et donc pas à construire des murs et des barbelés entre les hommes. Voilà. Ça, c'est aussi au cœur de notre foi chrétienne. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut faire n'importe quoi. Mais il faut que notre horizon, ce soit celui-là. Et aujourd'hui, je pense que ce qui fait défaut dans nos sociétés, société française en particulier, c'est qu'il n'y a plus de grande voix qui fasse entendre cette dimension première de l'autre comme un être humain, un frère en humanité. On voit bien dans les discours politiques, le migrant, c'est au mieux un problème, au pire un agresseur. Alors là, je vais jouer au vieux con, mais c'était mieux quand j'étais plus jeune. Mais bon, je le dis sérieusement en même temps. Je pense que les années passant, Il y a un terrible oubli qui est en train de se produire, et, bon, plutôt, il y a des choses que nous, les plus anciens, nous avons vécues ou connues, auxquelles ne sont pas sensibles de nouvelles générations. Alors, je ne veux pas généraliser non plus, mais je pense que moi, je suis né en 1950, donc c'était après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'était après la Shoah, mais il y avait la mémoire de la Shoah. Il y avait le souvenir de la catastrophe qu'avait représenté le nazisme, le fascisme, le stalinisme, etc., quoi. Et il y avait de la vigilance. Il y avait des grands témoins, des gens qui étaient sortis des camps. Bon. Je pense à Simone Veil en particulier aujourd'hui, mais il y en avait plein d'autres. Hein. L'abbé Pierre venait aussi de la résistance. Il y avait toutes ces grandes figures qui faisaient que il y avait des garde-fous dans la société. Aujourd'hui, il n'y a plus de garde-fous. Une société française comme la nôtre, quelles sont les grandes consciences morales? Il y a sûrement plein de gens bien. Hein, il y a plein de gens bien. Mais une conscience morale, ce qui fait la conscience morale, ce n'est pas seulement son comportement et son discours, mais c'est aussi son histoire. Oui, peut-être, mais alors Banater, vous avez raison de dire Banater. Pourquoi Banater? Parce qu'aussi, c'est un enfant qui a échappé à la Shoah. Et ça donne du poids à sa parole et à son agir. Alors, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec tout avec lui, mais voilà. Et tous ces témoins-là, ils sont en train de disparaître. Et donc, quelles vont être aujourd'hui les voix qui vont porter? Et qui seront vraiment considérés comme authentiques, c'est-à-dire que ce ne sera pas seulement des idées qu'ils porteront, mais que aussi c'est des idées incarnées, quoi, des idées vécues. C'est ça la grande question. Et le pape François, il est cette grande voix sur la question des migrants. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 17 heures, non?